Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour, bonjour, bonjour. Je reçois aujourd'hui Christian Piel, créateur de Urban Water, avec l'accent, n'est-ce pas ? Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Bon, alors on va parler d'une chose qui est toujours un petit peu malveillante, bienveillante, l'eau dans les espaces publics. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on s'oriente vers le mauvais, le bon ? Comment gère-t-on l'eau ?
Je dirais qu'il y a plusieurs types d'eau dans l'espace public. Il y a l'eau qu'on peut voir, l'eau de la fontaine, par exemple. Très bien. Ensuite, il y a les eaux plus éphémères, l'eau de pluie. Et puis, il peut y avoir d'autres eaux encore, l'eau de la crue d'un fleuve, par exemple.
C'est cela qui nous fait
d'eau.
Peur.
Absolument. Donc, généralement, elle est abordée, comme vous le dites, à travers la peur, à travers le risque, à part l'eau de la fontaine, mais celle qui est la plus structurante dans la ville, qui va être l'eau pluviale ou l'eau de la crue, elle est abordée en termes de risque.
Bah, effectivement, il y a quand même certains sites qui, dernièrement, ont été, je dirais, au cœur de l'actualité, des zones urbaines ou périurbaines qui ont été fortement inondées.
Oui, absolument. Mais premièrement, peut-être qu'elles étaient mal conçues, ou peut-être qu'elles étaient conçues exprès. L'intérêt, c'est que, certes, il peut y avoir cette inondation potentielle. Si elle a été accompagnée, si elle a été gérée, si elle a été prévue, finalement, il n'y a pas de risque.
Donc vous ne croyez pas dans le clivage de l'urbanité entre l'eau bienveillante et l'eau malveillante ?
Non, surtout pas. Au contraire, plus ça va et tant mieux, plus l'eau retrouve sa place dans la ville et plus elle passe de la notion de risque à la notion de ressources. Et c'est là où c'est intéressant.
Alors justement, ressources, expliquez-moi.
Eh bien, ressources, l'eau dans la nature, elle active tout un tas de processus. La biodiversité, la végétation, la fraîcheur, le scintillement, etc. Bref, tout un tas de choses. Aujourd'hui, on est en train de remettre dans la ville tous ces principes-là et de retrouver, et c'est là où on lui redonne une place physique, mais aussi une place d'activateur, je ne sais pas comment, d'activatrice.
Oui, féminin, évidemment.
Important. Une place d'activatrice, disais-je, justement pour cette nature. Et par exemple, on parle beaucoup de biodiversité, de nature en ville, d'agriculture urbaine, etc. De biodiversité, de d'îlot de fraîcheur, par exemple. Et là,
l'îlot de fraîcheur, c'est un concept fortement intéressant et absolument crucial, on va dire. Après, l'agriculture urbaine, les murs végétalisés, etc., etc. Ça existe depuis un certain temps. Surtout les murs végétalisés, quand même.
Alors, ça existe, oui, bien sûr. Mais si ce n'est que la différence, c'est que de plus en plus, le processus est naturel.
C'est ça, c'est des décos, maintenant.
Voilà,
c'est,
exactement. On passe d'un décor à une réalité où la nature, elle est réellement active et elle est réellement activée par l'eau. C'est là où ça devient intéressant.
C'est-à-dire que c'est la vraie nature comme celle que l'on trouve dans la forêt à côté de chez soi ?
C'est pas la vraie nature dans l'aspect physique, ou alors on est chez Disneyland. Mm. Mais par contre, c'est la vraie nature en termes de processus naturel. L'infiltration, la percolation, l'activation des sols, l'activation de toute cette biodiversité, comme je disais. Enfin bref, tous ces processus naturels, on les retrouve aujourd'hui en ville. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve.
Alors, pendant des années, on a considéré que la noue était, le lieu absolument extraordinaire pour récupérer les eaux pluviales et qu'en fait, on avait trouvé la solution grâce aux noues, surtout sur les écoquartiers qui ont fleuri il y a à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous en pensez de la noue, la fameuse ?
Alors, la noue. Bon, déjà, réexpliquer le principe, c'est quoi une noue ? Enfin, c'est un dispositif de rétention temporaire des eaux pluviales, c'est-à-dire que ça relève de la loi sur l'eau, où on impose à tout aménageur, tout promoteur, de compenser l'impact qu'il a par son opération sur le cycle de l'eau. C'est un peu compliqué.
Et de garder les eaux chez lui.
Voilà, de les garder temporairement, de façon à ce que lorsqu'il pleut, il n'y a pas saturation des réseaux et débordement à l'aval. Donc, il fallait faire des bassins de rétention. Et puis, à l'époque, c'était un peu compliqué. On s'est dit, ces bassins de rétention, il faut les intégrer dans la ville. Et on a fait des noues. En fait, c'est quoi une noue ? C'est un fossé plus ou moins profond,
oui,
plus ou moins bien
risques,
intégré.
Voilà, c'est ça.
Alors. C'était le début. Et moi, j'ai participé à ce début, et voilà, on imposait un peu les noues. Aujourd'hui, mettre une noue, je dirais, c'est un peu une erreur, parce qu'on a d'autres solutions.
C'est-à-dire que toutes celles qu'on a fait il y a 15 ans, 20 ans, avec des espèces d'herbes qui ne sont pas tout à fait appropriées, très sèches en été, avec quand même un taux de remplissage qui n'est pas énorme, on est censé aujourd'hui les remettre au placard hein.
Alors, pas du tout. Premièrement, effectivement, elles ont un taux de remplissage très faible. C'est normal, puisqu'elles vont gérer que les plus exceptionnelles. Deuxièmement, la végétation est souvent pas adaptée, parce qu'on a pensé que c'est des zones humides. C'est pas du tout des zones humides. C'est des zones qui sont quasiment jamais en eau, puisque c'est pour les plus exceptionnelles. Troisièmement, c'est pas qu'on peut les mettre au placard, mais aujourd'hui, on a d'autres techniques. Avant, on stockait les eaux, je dirais, en aval, quasiment avant qu'elles se rejettent dans le réseau. Donc, on faisait des nous qui reprenaient toutes les eaux du quartier. Donc, c'était des eaux très profondes. Aujourd'hui, on va pas faire ça. On va stocker les eaux partout, dès le toit du bâtiment. En surface, ouais. Partout, sur le toit des bâtiments, sur les places, etc., etc. Donc, on n'a plus besoin de concentrer les eaux dans un point donné. Donc, on n'a plus besoin de nous. Quand on fait une nous, c'est une erreur, je dirais.
Donc, ça veut dire que sur la toiture, c'est une bonne raison d'inciter les promoteurs, les bailleurs, à faire des toitures terrasses largement végétalisées. Mais je vais vous parler d'une chose qui s'appelle l'argent. Comme vous le savez, les toitures végétalisées, assez épaisses, confortables, douillettes, elles incitent à avoir une étanchéité hors pair et une toiture, une dalle de plancher haut de toiture formidable. Alors, comment fait-on ?
Alors, votre question est plurielle. Premièrement, vous pouvez stocker sur votre toiture sans avoir des toitures végétalisées, premièrement. Mm-hmm. Vous n'êtes pas obligé de stocker sur la totalité de la toiture. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une toiture plate sur l'ensemble de votre bâtiment. Ça peut être qu'une partie, premièrement. Deuxièmement, il y a des contraintes qui sont de plus en plus fortes sur la notion d'abattre les petites pluies. Ça veut dire quoi ? C'est plus la gestion du risque, comme on disait tout à l'heure, prévenir les risques d'inondations en cas de très grosses pluies. Là, c'est plutôt préserver le milieu naturel en évitant que les eaux pluviales se rejettent dans le réseau. Les réseaux qui ira déborder ensuite dans le milieu naturel.
D'accord, y compris les petites pluies.
Les petites pluies, voilà. D'accord. C'est une notion, par exemple, qui est en train de se développer. C'est une deuxième contrainte, voilà.
Expliquez-moi un petit peu plus les petites pluies.
Eh bien, les petites pluies...
J'adore
Par exemple,
terme.
À Paris, les petites pluies, donc les pluies courantes, quand il pleut, elles vont dans le réseau. Ce réseau est unitaire avec des eaux usées. Mmh. Ça vient se mêler aux eaux usées.
Et c'est perdu.
Premièrement, c'est perdu, mais surtout, ça ne va pas jusqu'à la station d'épuration. Mmh. Ça déborde avant. Ça déborde où ? Dans le milieu naturel. Ça veut dire qu'à Paris, et comme dans toutes les agglomérations, dès qu'il pleut, on pollue le milieu naturel. Donc, qu'est-ce que font les nouveaux acteurs de l'eau ? Ils demandent à ce que la ville soit spongieuse, de façon à ce que lorsqu'il pleut, l'eau reste sur le site.
Ça veut dire que les trottoirs doivent être spongieux. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Hein.
Il faut que les trottoirs, par exemple, soient désimperméabilisés, de façon à ce que ces petites pluies absorbent cette eau, qu'il n'y ait pas de ruissellement, n'aille pas dans les réseaux, donc ne pollue pas le milieu naturel.
C'est-à-dire que vous êtes pour casser le bitume sur tous les trottoirs parisiens ?
Je suis pour que peut-être adapter les revêtements pour qu'ils soient peut-être plus poreux. Ça peut être des dalles béton, ça peut être un bitume poreux, ça peut être des dalles béton, ça peut être des dalles non jointes.
Enfin, travaillez avec des entreprises de VRD sur ce genre de matériaux pour travailler ? Est-ce qu'il y a une conjonction d'intelligence entre Urban Water et X entreprises de VRD qui ferait du bitume poreux, du béton poreux, pour pouvoir ne pas avoir ce genre d'îlot de chaleur ?
Alors, Urban Water et les autres, on travaille certes avec les bureaux d'études VRD, mais on travaille aussi beaucoup avec les paysagistes et aussi avec les architectes, en tout cas ceux qui s'y intéressent, justement pour rendre poreux ces
trottoirs. Mais il faut les entreprises aussi derrière.
Il faut les entreprises, mais l'entreprise, elle va savoir faire si on lui explique bien les choses. Par exemple, un trottoir qui fait 2 mètres de large, il peut y avoir 50 cm qui va être lui poreux, et 1,50 m il ne le sera pas. Vous voyez, c'est tout un tas d'aménagements qui vont rendre la ville beaucoup plus spongieuse, beaucoup plus poreuse.
Et le coût ? Est-ce que le coût n'est pas rédhibitoire, le problème de la gestion de ce qu'on connaît en matière de coût, de VRD, où on a des chiffres et des abacs depuis des années, puis là, on arrive à une manière de faire différente ?
Nous, on travaille sur l'île de Nantes, par exemple. Sur l'île de Nantes, on a cette contrainte d'abattement des petites pluies, de gestion des pluies exceptionnelles. Si bien que sur chacun des lots, le bâtiment, le jardin est spongieux, et donc ne rejette pas d'eau sur la voirie. En tout cas, pas dans...
Mais ça, c'est parce que c'est des paysagistes qui sont...
Talentueux.
Et puis surtout, décident du projet.
Et puis, il y a un règlement qui les oblige à faire ça. Le fait qu'il y ait ces contraintes intégrées à l'îlot, qui les rend beaucoup plus verts, fait qu'il n'y a pas d'eau qui arrive sur la voirie. comme il n'y a pas d'eau, on a fait les calculs, on s'est aperçu que ce n'était pas la peine de mettre de tuyaux. Ça D'accord. veut dire que tout le réseau d'assainissement n'existe plus. Donc c'est une économie énorme, premièrement.
Plus du tout.
Plus du
Même
tout.
Pour les eaux...
Pour les eaux usées, bien
ah
sûr.
Ah bon, d'accord, vous me faites peur.
Mais voilà. Et ce que je voulais dire, premièrement, économie de réseau. Deuxièmement, il faut savoir que c'est très aidé. En fait, le fait que l'eau n'aille plus dans les égouts et donc n'aille plus dans les stations d'épuration, ça fait de grosses économies pour l'agence de l'eau.
Donc, oui, l'agence je de ne l'eau, savais pas que l'agence de l'eau finançait.
Voilà.
Alors ça, c'est
donc,
très bien pour nos amis promoteurs et bailleurs.
Absolument, absolument.
Et donc, sur tous les projets, on peut aujourd'hui demander de l'argent à l'agence de l'eau pour avoir une aide.
Dès lors qu'il y a des imperméabilisations, c'est très aidé. C'est très aidé, je dirais que c'est au mètre carré désimperméabilisé, ou en tout cas dont l'eau ne va plus au réseau. Ça veut dire que si vous avez un parking, que ce parking vous crée en point bas un espace d'infiltration, c'est l'ensemble du parking qui va être aidé. Et de façon assez conséquente, et surtout de façon très opérationnelle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'entreprise envoie les factures, l'agence de l'eau...
C'est systématique.
C'est systématique. Donc c'est très bien fait.
Je connais certains projets dont... un des nôtres, à l'agence, qui serait très intéressé.
Bien sûr, mais il faut faire ça. Donc, tout concourt à cette spongiosité tout à fait bénéfique en termes de nature, justement. Ça répond, peut-être j'avance sur vos questions, mais ça répond à d'autres enjeux, finalement. Par la gestion des eaux pluviales, on répond à d'autres enjeux que sont ceux de la nature en ville.
Ma dernière, ou peut-être dernière question, est quand même liée à dans 10 ans, comment voyez-vous les choses ? Quelle est la prospective à 10 ans ?
Ben, je dirais que c'est de plus en plus intéressant. La prospective à 10 ans, à mon sens, l'eau pluviale ne sera plus traitée comme un sujet à part entière, mais sera plutôt mêlée à d'autres sujets. Je reviens encore sur l'île de Nantes, mais et bientôt sur le PLU, à mon avis, de Paris, où par exemple, ils traitent la biodiversité et l'eau pluviale en même temps. Et donc, ils imposent des coefficients de biodiversité. Mais si on répond à ces coefficients de biodiversité, on a répondu aux contraintes de gestion de l'eau.
C'est-à-dire, finalement, bientôt, on va avoir l'introduction, la réintroduction des chimpanzés en Île-de-France, c'est ça ?
Alors ça, j'ai pas d'avis. J'exagère un petit peu, pas d'avis encore. C'est peut-être à 20 ans, alors. Mais à 10 ans, c'est ça. Non, c'est très intéressant parce que on parle beaucoup de nature en ville. Je crois que les promoteurs, les aménageurs, ont envie aussi d'offrir une ville qui sera verte, qui sera fraîche, qui sera naturelle, etc. Aussi en termes d'image, tout simplement. C'est aussi important. En réalité, là, on n'est plus dans la déco. La réglementation et les moyens financiers qui vont avec existent et permettent la création de ce type de ville. Donc finalement, ce qui peut apparaître comme une contrainte, cette gestion des eaux pluviales et même des eaux fluviales, finalement se traduit dans la réalité, vraiment dans la réalité, je dis ça pour de vrai, comme un facteur de valorisation de la ville.
Donc ça veut dire que la frugalité hydrique existe quand même, hein ?
Oui, parce que le fait que tous ces substrats, toute cette gestion de l'eau, fait qu'il n'y a plus besoin d'arroser, enfin beaucoup moins d'arroser, etc. Le processus est naturel. Donc c'est pour moi, c'est ça la frugalité.
Formidable énergie que celle de la frugalité hydrique. Merci Christian Piel, merci Urban Water et j'espère pour vous de nouvelles aventures.
Mais écoutez, avec plaisir, en tout cas merci de m'avoir invité.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.